Mais moralement, vous êtes. Vous cherchiez à faire mourir la personne. Et ça ne s'est pas réalisé, mais l'intention était bien là. Donc en morale, ça joue un grand rôle, l'intention que nous poursuivons. Le but que nous poursuivons et qui est moralement significatif, même s'il n'a pas été atteint. Vous avez cherché à incendier la maison de votre voisin, et au moment où tout est prêt, il y a là un petit peu de paille à proximité de la maison, mais votre allumette se brise, bon, vous ne mettez pas le feu, mais moralement, vous êtes coupable d'un incendie, parce que vous avez voulu le faire. Ça ne s'est pas réalisé effectivement, mais vous en aviez l'intention. Alors quand on réfléchit à ce qu'on appelle les facteurs de la moralité, donc les paramètres qui interviennent pour évaluer un acte moral, et qu'on se demande qu'est-ce qui est le plus important, eh bien la réponse, je pense d'à peu près tous les moralistes, c'est de dire c'est l'objet de l'acte qui est le plus important. Ça, il l'emporte sur les circonstances, surtout si celles-ci sont insignifiantes, et il l'emporte sur le but poursuivi, à condition de bien comprendre de quel objet il s'agit. Il ne s'agit pas seulement, si je prends l'exemple de la morale de saint Thomas d'Aquin, il ne s'agit pas seulement de l'objet matériel, mais il s'agit de l'objet dans son contexte humain. Je prends quelques exemples. Si un billet de 100 euros passe par un habile geste de prestidigitation, passe de votre portefeuille dans le mien, ce n'est pas automatiquement un vol, parce qu'il se peut que ce soit la récupération d'une somme que j'avais prêtée. Et pour être assuré que je vais la récupérer, je fais passer le billet de 100 euros du portefeuille de l'un, de l'autre, dans le mien, par un habile tour de prestidigitation. Matériellement, c'est la même chose. Il y a un billet qui passe d'une personne à l'autre. Mais tout dépend du contexte humain, et ici du contexte juridique. Cette personne a une dette à mon égard, et je la récupère, ce qui est légitime. Est-ce qu'un coup de poing donné à quelqu'un est un acte... est objectivement un acte grave? Il ne suffit pas de regarder le coup de poing d'un point de vue simplement matériel. Parce que si vous donnez un coup de poing à quelqu'un simplement pour lui faire mal, pour l'écraser, peut-être même le tuer, donc ça c'est moralement grave, c'est un crime. Mais si vous êtes ne fût-ce que amateur en boxe, vous donnez un coup de poing à celui avec qui vous boxez, ce n'est pas une faute morale, parce que c'est un contexte humain très différent, où ça fait partie d'un sport, un sport à propos duquel on peut se poser certaines questions, mais ça fait partie du jeu de se donner des coups de poing. On ne peut pas définir l'objet moral uniquement par l'aspect matériel. Un billet qui passe d'une poche dans une autre, un coup de poing qui arrive dans la figure de quelqu'un, et c'est très important en morale de ne pas comprendre l'objet de manière purement matérielle, mais dans son contexte humain. Et c'est dans ce contexte-là, vraiment humain, que depuis pratiquement toujours, il y a eu, c'était remis en question récemment, on a considéré qu'il y a des actes qui sont intrinsèquement par eux-mêmes négatifs. Et que rien ne peut justifier aucune circonstance ni aucun but. On ne peut pas déclarer que ces actes sont bons parce qu'on les a posés avec un but honnête. Ou parce que les circonstances rendaient cet acte acceptable. Ils sont intrinsèquement, par eux-mêmes, par leur contenu, négatifs, à condition de comprendre ce contenu, pas de manière purement matérielle, mais également dans le contexte humain. Je me donne des exemples classiques de la morale, d'actes intrinsèquement négatifs. Tuer un innocent est toujours négatif. Pourquoi précise-t-on tuer un innocent? Parce que il y a parfois des circonstances qui font qu'un acte n'est pas un homicide. À savoir, par exemple, en cas de légitime défense, vous êtes attaqué injustement par quelqu'un qui veut vous tuer, vous avez le droit de vous défendre, même en entraînant la mort de cette personne. Et ce n'est pas un homicide. Il ne s'agit pas de tuer quelqu'un pour qu'il y ait un homicide. Ce n'est pas seulement l'objet matériel qui compte, c'est le contexte humain qui est très différent dans le cas de la légitime défense. Avoir des relations homosexuelles est toujours négatif. Aucune circonstance, aucun but poursuivi ne peut rendre cela honnête, rendre cela bon moralement. L'adultère est toujours négatif. Aucun but poursuivi, aucune circonstance ne peut transformer cet acte en un acte moralement bon. La gravité peut être atténuée par les circonstances ou aggravée par les circonstances. Si vous commettez l'adultère avec une personne qui est une proche parente, ou un proche parent, s'ajoute l'inceste. Mais jamais aucune circonstance ne peut rendre bon cet acte. Je suis très reconnaissant aux juristes qui ont réfléchi de manière morale en disant que la torture n'est jamais moralement acceptable. Pourtant, la tentation est grande dans certaines circonstances. On pense que quelqu'un connaît un secret très important pour notre vie ou pour la vie d'autres personnes. Peut-être bien pourra-t-on extorquer ce secret en torturant. Eh bien, moi je rejoins les moralistes et les juristes qui disent non. La torture n'est jamais un moyen acceptable. Bien, la tradition théologique et philosophique en morale a presque toujours reconnu qu'il y a des actes intrinsèquement négatifs. Mais récemment, toutes sortes de théologies morales se sont développées, je veux dire récemment, à partir des années 70, pour dire qu'il n'y a pas d'actes intrinsèquement négatifs. Et le but était se défaire de humanévité. Parce que dans Humanévité, Paul VI tient que la contraception est intrinsèquement négative et qu'aucune circonstance ou but poursuivi ne peut la rendre moralement bonne. Mais attention, à condition de comprendre la contraception, pas seulement de manière purement matérielle, mais comme un objet moral. Je l'ai déjà dit hier, il ne suffit pas d'avaler un contraceptif pour pratiquer la contraception. Quand le contraceptif sert à régler le cycle féminin, ce n'est pas un contraceptif. Quand il sert à dissocier l'alcool de la procréation, ce n'est pas de la contraception. La contraception se définit par un moyen qui permet de déconnecter l'amour humain et la conception d'une nouvelle vie. Mais quand il s'agit non pas de l'amour humain, mais simplement de la violence brutale ou de l'alcoolisme, ce n'est pas la contraception. Alors qu'ont fait ces moralistes qui voulaient se défaire de l'humanité? Ils ont inventé de nouveaux systèmes de morale, ingénieux, mais incorrects, ingénieux pour s'en débarrasser. En disant, il y a trois formes principales de ces morales développées, la plupart en milieu germanophone et un certain nombre en milieu anglophone et surtout américain. Il y a tout d'abord l'éthique que on appelle d'un mot savant, je m'excuse mais je ne peux pas l'employer, morale dite téléologique, T-E-L-E-O, téléo, puis logique. Donc pas théologique, mais téléologique. T-E-L-E-O-L-O-G-I-Q-U-E. Ça vient d'un mot grec telos, qui signifie le but poursuivi, le but, telos. Alors, l'adjectif construit sur cela, et c'est l'adjectif pas téléologique, mais téléologique, parce que le génitif de telos, c'est teleos. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que, à condition que l'on ait une orientation globale vers le bien, on veut vivre une vie généreuse, on veut vivre une vie fidèle à l'amour de Dieu, on veut vivre une vie fidèle aux grandes injonctions morales, fais le bien, évite le mal. Si cela est garanti, alors, dans le concret des actes imposés, il faut se livrer à une pesée des buts que l'on poursuit, téléos, téléologique, les buts que l'on poursuit, et aussi leurs conséquences, les conséquences à court et à long terme, ce qui va s'en suivre, et qui rentre aussi dans le concept de telos, le but, la fin, les conséquences. Et il faut alors, disent ces moralistes, il faut faire une pesée des conséquences positives et négatives qui vont découler de cet acte à travers lequel on poursuit un certain but, telos, à savoir, par exemple, avoir une vie conjugale et familiale harmonieuse. On va peser les conséquences. On va se dire, oui, si j'utilise la contraception, c'est la femme qui va la pratiquer. Or, la contraception avait été comprise au début comme une manière de libérer les femmes de grossesse indésirée. Mais il se fait que, en fait, les hommes n'utilisent pas de contraceptifs hormonaux. Ils utilisent le préservatif, mais qui n'a pas de conséquences sur leur santé. Tandis que c'est les femmes qui consomment les contraceptifs. Donc on va dire, oui, c'est un effet négatif. Il faut en tenir compte. Mais par ailleurs, il y a des conséquences positives. On va éviter une grossesse et on est sûr de l'éviter. Donc, ça va nous donner sécurité, sérénité. On pourra avoir une vie conjugale sans le stress de se demander est-ce que par hasard, on ne va pas avoir quand même un enfant à un moment où on ne le désire pas. Il y a aussi des conséquences sur la santé de la contraception. On a lu dans des revues que ce n'était pas tout à fait innocent, que ça avait des conséquences psychologiques, des conséquences sur l'obésité, des conséquences cardiovasculaires, des conséquences sur le plan des cancers. Bon, on va peser tout ça, et si on juge que les aspects positifs l'emportent sur les aspects négatifs, eh bien, on pourra, conformément à cette morale téléologique, on pourra choisir la contraception. Elle résultera, on a une intention généreuse globale, je veux être généreux, je veux avoir une vie conjugale généreuse, je suis prêt, on est prêt à donner la vie à un enfant, deux enfants maximum, mais pas plus, on est quand même généreux. Eh bien, pour savoir si on va pratiquer ou non, on fait une pesée. Dans les milieux anglo-saxons, surtout américains, on a appelé cette morale la morale conséquentialiste. On juge de la valeur morale d'un acte par la pesée des conséquences. Il y a une question qu'on n'aborde pas. À partir de quel principe va-t-on évaluer les conséquences? Comment va-t-on les... À quelle aune va-t-on les mesurer? Par certains cas, c'est assez évident. Question de santé, question d'hygiène. Mais d'autres fois, c'est pas tout à fait évident. Par exemple, si on pratique constamment la contraception, ça engendre presque inévitablement l'avortement si, en raison d'une faille dans le contraceptif utilisé, malgré tout, voilà qu'un enfant est conçu. Mais comme il était chimiquement, hormonalement, scientifiquement, en principe, à 100% exclu qu'un enfant soit conçu, si malgré tout il est conçu, il apparaît comme un intrus qui est passé à travers les mailles de notre connaissance scientifique et des moyens techniques employés, et donc la tendance à se faire avorter est encore plus forte. Ça fait partie aussi des conséquences. Mais comment va-t-on mesurer tout cela? Une autre morale qui est née, elle aussi, en milieu germanique, en Allemagne, c'est la morale dite autonome, consistant à dire tout ce qui concerne notre biologie, notre physiologie, c'est un simple matériau, en soi insignifiant. C'est le retour, curieusement, à une philosophie très dualiste, où on considère qu'il y a d'un côté l'âme, purement spirituelle, et puis il y a accolé à cette âme le corps, qu'on considère comme étant un ensemble de données purement matérielles, un matériau à notre disposition. Rappelez-vous, chez saint Thomas d'Aquin, il n'en est pas comme cela. Chez saint Thomas d'Aquin, notre nature humaine, y compris dans ses aspects biologiques, a déjà du sens. Elle est habitée par des inclinations naturelles qui sont en elles-mêmes positives. Conserver sa vie, avoir une vie sexuelle et procréer, organiser de manière rationnelle la vie en commun par des systèmes politiques. Mais pour saint Thomas d'Aquin, ces inclinations naturelles, qui sont déjà humaines et bonnes, doivent être orientées ensuite par la raison à une juste fin. Et donc, par exemple, dans certaines circonstances, on sera prêt, pour une fin supérieure, à accepter de mourir. Si on sent que Dieu nous appelle à lui consacrer toute notre vie, on va, en dépit de l'inclination bonne, déjà humaine, qui nous pousse à la rencontre sexuelle et à la procréation, on va dire au Seigneur, viens pour tes beaux yeux, par amour de toi, je renonce à l'exercice de la sexualité et à la procréation. Par amour pour toi, je vais orienter cette inclination autrement, vers une autre fin. Je vais sublimer en quelque sorte ma vie sexuelle dans une autre direction, etc. Ou bien, même si c'est un instinct très profond, comme dirait Thomas d'Aquin, qui nous pousse à vivre en société, et dans une société organisée, il y a certains qui vont juger que pour le plus grand amour de Dieu, ils doivent répondre à une vie d'ermite. Et ils vont vivre tout seuls, comme le stylite, comme du mot grec stylos, qui signifie un pilier, qui vivait au sommet d'une colonne. Et de temps en temps, il y avait quand même quelqu'un qui leur apportait de la nourriture. Alors ils avaient une corde et un crochet pour. Mais même un ermite vit quand même toujours, malgré tout, un petit peu en société. Mais n'empêche, c'est un choix qui n'est pas tout à fait dans la ligne de l'organisation d'une vie sociale. Tandis que pour les partisans de la morale autonome, toutes les données biologiques, physiologiques, instinctives de notre condition humaine, c'est un pur matériau dont notre raison parfaitement autonome fait ce qu'elle veut. On retourne un peu à l'idée de Descartes. Descartes considérait que nous étions d'abord fondamentalement une substance qui pense. Mais elle est accolée à une machine qui est notre corps. Mais ce n'est qu'une machine. Il pensait que le rapport entre les deux se faisait quand même à travers une glande, la glande pinéale dans le cerveau. Mais il parlait du corps humain comme d'une machine dont nous sommes le conducteur, par notre âme qui est une substance qui existe en elle-même et qui pense. Et alors, dans cette morale autonome, on en vient à dire, mais toutes ces données, à savoir que la rencontre, l'accouplement d'un homme et d'une femme peut donner naissance à une nouvelle vie, c'est un saint matériau, mais nous en faisons ce que nous voulons par notre raison, en poursuivant les buts qui nous sont indiqués par notre raison. Et dans ce genre de morale, on tient qu'il n'y a aucun acte biologique, physiologique, qui soit intrinsèquement négatif. C'est un saint matériau. Tout dépend du projet de notre liberté. Tout dépend seulement de nos intentions. Et comme argument, il se servait d'un argument dont vous allez saisir aussitôt la fausseté, il prenait comme argument, mais regardez, même les moralistes les plus traditionnels reconnaissent que l'usage d'un contraceptif est licite dans certains cas, par exemple pour se prémunir d'une grossesse indésirable parce qu'il s'agira d'un viol. Quelqu'un prévoit qu'il va y avoir des viols, ce qui est assez fréquent dans les situations de guerre, de violence, une femme prévoit qu'elle va être violée, elle prend un contraceptif pour se prémunir d'une grossesse tout à fait indésirée. Tout le monde reconnaît que c'est légitime. Et donc ces moralistes se servent de cela pour dire, mais voyez, c'est pas intrinsèquement négatif, puisque c'est parfois permis. Mais c'est parce qu'ils ont considéré l'objet contraception comme un simple objet matériel. Ils sont très naturalistes au fond. Ils dénoncent dans l'Encyclique Vitae son prétendu naturalisme, parce qu'on y fait attention aux périodes fécondes et non fécondes de la vie d'une femme. Mais en fait, eux sont très naturalistes. Ils définissent la contraception simplement par un objet matériel. Alors que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que résonne la morale de saint Thomas d'Aquin et globalement la morale de l'Église catholique. Donc, je le répète, si on reprend l'exemple de la contraception, qui est très important, puisque c'est pour se débarrasser de leur doctrine d'humanévité que c'est moral, téléologique, conséquentialiste, proportionnaliste, autonome, ont été inventés par des théologiens au cours des 40 dernières années. Je reprends donc cet exemple-là, qui je pense maintenant vous est devenu familier. Ce que Humanévité déclare comme intrinsèquement mauvais, c'est la contraception, entendue comme l'exclusion volontaire de la fécondité de rapports sexuels humains, et pas d'un simple accouplement décrit matériellement. Quand il s'agit de couper le lien entre l'alcool et la procréation, ou la violence brutale et la procréation, il ne s'agit pas de contraception, car l'objet moral est différent. Donc j'espère m'être fait comprendre sur cette question. De même, encore d'autres moralistes, certains moralistes s'étonnent que, nous le verrons à partir de cet après-midi, s'étonnent que pour Humanévité, la contraception soit déclarée intrinsèquement illicite, tandis que la pratique des rapports sexuels en période d'infécondité de la femme est jugée objectivement licite. Je trouve ça étonnant. Parce que dans un cas comme dans l'autre, disent-ils, il va y avoir un rapport sexuel qui ne va pas déboucher sur une procréation. Mais leur étonnement vient de ce qu'ils ont compris à nouveau cet enjeu, la contraception ou bien les méthodes non contraceptives, sur un plan purement matériel. Dans le cas de la contraception, l'acte sexuel est rendu volontairement stérile, de telle sorte que le lien moral entre amour et fécondité est nié par les conjoints, qui se place au-dessus de ce lien, qui le déconnecte, tandis que dans le cas des méthodes dites naturelles, je préfère dire non contraceptives, la rencontre sexuelle demeure structurellement ouverte sur le don de la vie. Rien n'est fait pour empêcher une éventuelle conception. Mais simplement, on a une rencontre sexuelle à un moment où la femme n'est pas féconde. C'est une attitude spirituellement très différente. Mais nous verrons ça en détail en avançant plus loin. Alors, dans les années 90, je ne sais plus la date exacte, apparut une encyclique de Jean-Paul II pour faire le point en morale suite à l'efflorescence de toutes ces morales que je viens de parcourir rapidement, qui cherchaient à se débarrasser d'humanévité, morale téléologique, morale conséquentialiste, morale proportionnaliste, on fait une pesée de proportionnelle de ce qui est positif et négatif comme conséquence, morale autonome. Donc c'est une encyclique très exigeante à lire, parce qu'elle est très technique et elle présuppose, pour être bien comprise, qu'on connaisse les grandes orientations de la théologie morale des 40 dernières années. Et avec ce que je vous ai expliqué, vous pourriez déjà suivre pas mal de choses dans cette encyclique. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai écrit un petit bouquin, La morale en question, présentant les choses de manière fidèle. Tout le contenu est présent, mais dans un style un peu humoristique, un peu avec des moments de détente. J'ai traité de cela alors en long et en large dans un bouquin que vous ne trouverez pas ici à la librairie, parce que c'est un livre trop technique, Le fondement de la morale, que j'ai publié aux éditions du Cerf. Du Cerf, comme on dit en France. Je me demande pourquoi on dit le Cerf en France. Parce que quand vous parlez d'un cerf, le brame du cerf dans les bois, vous ne dites pas le brame du cerf. Bon, enfin, c'est comme ça. Alors, dans l'encyclique Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, dans sa partie essentielle, centrale, elle manifeste les graves ambiguïtés de ces morales qui nient l'existence d'actes intrinsèquement négatifs. Et le pape expose longuement tous ces systèmes de manière très, très fidèle, en en montrant chaque fois l'ambiguïté, et il conclut par un chapitre très très beau. Il y a un très beau chapitre au début, très facile à comprendre, qui est le commentaire de la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Ce jeune homme qui demande à Jésus, qui pose la plus belle question qu'on puisse poser à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond en disant, en citant les commandements. D'abord, dans l'évangile de Marc, comme le jeune homme dit « bon maître », Jésus relève le mot « bon ». Pourquoi m'appelles-tu bon ? Car il n'y a que Dieu qui est bon, absolument parlant. Et par là, Jésus implicitement rappelle les trois premiers commandements du Décalogue. À savoir, tu adoreras un seul Dieu, tu respecteras le nom de Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais pour le reste, Jésus cite les autres commandements du Décalogue concernant soi-même et concernant autrui. Et quand il a énoncé cela, le jeune homme réagit en disant « Eh bien, maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Et donc Jésus, voyant qu'il est très bien disposé, Jésus le regarde, et Marc précise, il le regarde en l'aimant. Et alors il lui propose d'aller au-delà des commandements, en lui disant, si tu veux être, que me manque-t-il encore ? J'ai observé tout ça depuis ma jeunesse, dit le jeune homme riche. Jésus répond, si tu veux être parfait, si, tu n'es pas obligé sous cette forme-là, mais si tu veux être parfait, eh bien, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et puis, suis-moi, marche à ma suite, deviens mon disciple de tout près. Et à ces mots, le jeune homme devient tout triste, car il avait de grands biens. Oui. Jean-Paul II a souvent commenté cela dans les réunions de jeunes. Et c'était très 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 bien, très 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 judicieux de faire cela. Donc il avait devant lui des milliers de jeunes, et c'était pour lui l'occasion de rappeler l'essentiel de la vie humaine. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? C'était l'occasion de rappeler l'importance des commandements, qui sont des commandements de vie. Comment choisir la vie plutôt que la mort ? Et il pouvait aussi ajouter, et s'il y en a parmi vous qui se sentent un appel à se consacrer de manière directe et immédiate entièrement au Seigneur dans le sacerdoce, dans la vie consacrée, eh bien, alors mettez vos pas dans les pas de Jésus. Donnez-lui la préséance absolue. C'est un très beau chapitre. Mais il termine l'encyclique aussi par un très beau chapitre où il parle du martyr, rappelant que le témoignage le plus grand que l'on puisse rendre à l'amour de Dieu, c'est, s'il le faut, on ne court pas après, mais s'il le faut, mourir pour lui. Et martyr est un mot grec qui signifie témoignage. C'est le témoignage de l'amour pour Dieu qui va jusqu'à l'extrême, qui va jusqu'au bout, jusqu'au don de la vie. Alors il donne des exemples, il évoque certains grands martyrs, mais il évoque avec beaucoup de ferveur Sainte Maria Goretti, cette jeune fille italienne, elle avait 12 ans, qui, une famille très, très pauvre, très, très, très modeste, près de Nettuno en Italie, qui avait un voisin, Alessandro, plus âgé qu'elle, qui devait avoir vers 18 ans, et qui la poursuivait, qui la harcelait, qui voulait absolument coucher avec elle. Et un jour, cet Alessandro l'a vraiment agressée avec un couteau, avec un poignard, en espérant par là, par crainte de la mort, extorquer une relation avec Maria. Et elle a refusé, elle lui a dit, nous ne pouvons pas faire ça, c'est un péché. C'est un péché si nous faisons cela. Et donc elle a préféré se laisser poignarder de multiples coups de poignard et a expiré. Et son attitude a d'ailleurs converti ce garçon qui a changé de vie et qui a fait de la prison, bien sûr, mais qui s'est converti aussi en prison et qui finalement a été présent à la canonisation de Maria Goretti. Alors Jean-Paul II dit, comment réagit-on face à Maria Goretti si on adopte la morale conséquentialiste? Eh bien, il aurait suffi que Maria Goretti, dans l'intime de son cœur, dise, Seigneur Jésus, c'est toi que j'aime par-dessus tout. Et pour toi, je veux être chaste et vierge, c'est mon intention la plus profonde. Mais maintenant, sur le plan du concret, pas de l'intention globale, mais de cette situation particulière, je dois faire une pesée des conséquences si j'adopte la morale conséquentialiste. D'une part, si je dis non à Alessandro, ça va avoir comme conséquence que il va me tuer, va me poignarder, ce qui est plutôt désagréable, et puis ma vie va être terminée brièvement, et moi qui aurais voulu me consacrer à toi Seigneur, je ne vais pas pouvoir le faire, je ne pourrais pas entrer dans la vie consacrée, te servir, il y a un témoignage que j'aurais pu rendre, je ne vais pas pouvoir le rendre. Donc si je dis non, ça va avoir beaucoup de conséquences négatives. Mais si je dis oui, je vais bien sûr, on va vivre une fornication, une relation sexuelle entre personnes qui ne sont pas mariées. Oui, objectivement c'est mal, mais quand même dans les circonstances, c'est quand même peut-être intéressant, utile. On pèse les conséquences. Eh bien, je le dis un peu violemment, aux yeux d'une certaine morale conséquentialiste, proportionnaliste, téléologique ou autonome, Maria Goretti a été une petite imbécile. Elle aurait pu échapper à la mort tout en préservant son intention globale de vie généreuse et en se permettant une petite exception à contre-cœur, mais avec tant de conséquences positives qu'il aurait contrebalancé. Eh bien, heureusement, Maria Goretti ne connaissait pas la morale autonome et la morale conséquentialiste, et elle a réagi en donnant sa vie, et elle a rendu un témoignage encore bien plus beau et important que celui qu'elle aurait rendu en consentant à cette faute, et après, d'un cœur généreux, en entrant dans la vie consacrée. Mais tous les martyrs ont eu tort si on adopte cette morale. Il aurait suffi que tous ceux qui ont été exécutés et si cruellement sous l'Empire romain, mais dans tant d'autres persécutions. Ben, je pense à ceux qu'on a fêtés récemment, les martyrs de Nagasaki, Paul Mickey et ses compagnons. Ils auraient pu, en prononçant contre cœur une parole, « Je renie le Christ », une simple parole qui ne les engageait pas profondément, ils auraient pu échapper au lieu d'être douloureusement crucifiés. Eh bien, les martyrs ont eu raison. Ils ont eu raison. Et une morale qui leur donne tort est une morale qui ne vaut vraiment pas la peine et qui passe à côté de l'enjeu essentiel. Mais déjà dans l'Ancien Testament, le vieillard Éléazar, il a près de 90 ans, ce qui était rare à l'époque, il a près de 90 ans, et on veut le persécuteur hellénistique, païen, veut qu'il mange du porc, en renonçant donc à la loi de Moïse. Même si ce n'est pas le précepte le plus important de la loi de Moïse. Mais n'empêche, il y attachait beaucoup, une grande importance. Pour lui, c'était trahir la loi de Moïse que de manger du porc. Alors ses amis lui disent, écoute, on va te préparer un plat de viande qui ressemble à du porc, mais qui n'est pas du porc. Et donc, quand le juge va te demander de manger du porc, tu vas prendre l'autre viande, et comme ça, tu échapperas à la mort. Alors, il répond, bien, que penseront les jeunes gens quand ils apprendront que Éléazar, pour un misérable petit complément de vie, pendant quelques mois ou quelques années, a joué la comédie et a été occasion de scandale pour tous ceux qui auront pensé qu'effectivement, il mangeait du porc. Eh bien, il préfère mourir que de jouer cette comédie. Voilà, les enjeux sont très grands. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de vous parler de choses très philosophiques. L'objet moral, à bien comprendre, pas de manière purement matérielle, l'objet moral comme étant le nœud de la question morale, le centre, à tel point que certains actes sont intrinsèquement négatifs de par leur objet moral, quelles que soient les intentions et quelles que soient les circonstances, et ensuite d'autres facteurs qui jouent un rôle, mais qui ne sont jamais tout à fait décisifs, les circonstances et les intentions poursuivies. L'intention joue un rôle, bien sûr, en morale, mais pas au point, dans certaines choses très graves, de rendre bon un acte qui serait intrinsèquement mauvais. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser concernant cet aspect des choses, ou bien ai-je été suffisamment clair ? Eh bien, si c'est clair, restons-en là. Et cet après-midi, nous allons voir comment tout ce que je viens de dire est mis en œuvre dans l'encyclique Humanae Vitae elle-même. Ce sera le thème du sens spirituel de la distinction entre contraception et méthode, entre guillemets, naturelle. Oui. Ce sera pour cet après-midi.
Question. Comment peut-on en théologie, enfin je ne suis pas théologien du tout, se déconnecter de la dimension de péché? Je m'excuse de parler.
Déconnecter
de la dimension de péché. Enfin bon, parce que là ça parle plus de...
Mais on ne sait pas qu'on déconnecte de la notion de péché, mais qu'on dit que il y a, dans certaines morales, on essaye de dire qu'il n'y a pas de péché, même dans des actes traditionnellement réputés être intrinsèquement négatifs, parce que on survalorise l'intention et qu'on réduit l'objet de l'acte simplement à ses conséquences. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de péché dans ces morales-là qu'au niveau de l'intention ultime. Si quelqu'un décide, je vais vivre en mettant le bon Dieu en parenthèse, ça c'est un péché. Il n'y a de péché que dans les décisions globales, générales, ultimes, le rapport à Dieu. Mais prétendre cette théologie morale, si on a garanti une intention globalement généreuse vis-à-vis de Dieu et d'autrui, alors sur le terrain du concret, rien n'est intrinsèquement négatif. Tout dépend des conséquences positives, négatives, qu'il faut sous-peser pour voir si l'acte sera, on dira pas bon, mais sera juste. Non pas gut, mais richtig, comme on le distingue en allemand. Non, la distinction entre, c'est aussi on invente une distinction entre ce qui est bon et ce qui est juste. Ne peut être bon que l'intention globale générale. Nos actes concrets, ils sont pas bons ou mauvais au sens fort, ils sont appropriés ou non appropriés. Et on était très, très inventifs pour se débarrasser de l'humanité. Bien. À cet après-midi alors.